Voilà, j'avais commencé dimanche dernier à parler du tabernacle. Donc le tabernacle, tabernaclé, hein, il y a même un verbe tabernaclé, ça veut dire demeurer. Donc c'est la demeure de Dieu, en tout cas le tabernacle qui nous est décrit dans la Bible, c'est la demeure de Dieu auprès des hommes. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, et les anges sont absolument ébahis, ils n'en reviennent pas, de la faveur que Dieu fait aux hommes. Les hommes ont péché, il y a un tiers des anges qui a péché aussi, mais ce tiers des anges n'a pas de salut, il est perdu pour l'éternité. Ceux qui se sont rebellés, les anges qui se sont rebellés, il y a des anges fidèles, mais des anges qui sont rebelles avec Satan qui les a entraînés dans sa chute, eh bien, ils n'ont aucun salut pour l'éternité. Alors que les hommes, Dieu aime les hommes et les femmes, bien sûr. Quand je dis homme, c'est homme et femme. Dieu nous aime. Et vous connaissez Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu aime les hommes. Dieu aime la créature qu'il a formée. Et ça, c'est vraiment important que nous, chrétiens, nous en soyons profondément, profondément persuadés, parce que ça conditionne complètement notre foi et notre attitude envers Dieu. Et non seulement Dieu nous aime, mais il veut demeurer avec nous. Et vous, il veut être dans notre demeure. Regardez l'histoire de Zachée. Jésus a rencontré Zachée sur l'arbre, il voulait se cacher pour pas qu'il se voie, qu'il soit vu. Et Jésus a dit, aujourd'hui, je viens chez toi. Alors qu'il était pécheur, il était voilà, collecteur d'impôts, etc. Le Seigneur aime venir auprès des hommes, auprès des femmes, pour les rencontrer en tête à tête. Rappelez-vous aussi le chemin d'Emmaüs, hein, sur le chemin d'Emmaüs où Jésus a rencontré ces deux pèlerins. Eh bien, le Seigneur nous aime et il veut demeurer auprès de nous. Ce qui fait que, après avoir détruit les êtres humains au déluge, vous vous rappelez, hein, parce qu'il y a eu absolument des péchés horribles, eh bien, Dieu s'est repenti en disant qu'il ne détruira plus avec l'eau, en tout cas pas de cette manière-là. Et il a permis à ce qu'à partir de Noé, il y ait une nouvelle humanité avec ses trois fils, qui puisse repeupler la terre. Et il a appelé Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu, enfin il a cherché Dieu, il a entendu, il a suivi. Et c'est le père d'une multitude de nations. Nous, nous sommes redevables à Abraham, hein, puisque c'est le père de la foi. Et Abraham, il a Isaac, Jacob, Jacob qui est devenu Israël. Et ensuite, après, il y a eu un peuple, à partir des 12 fils de Jacob, qui s'est constitué en Égypte pendant 450 ans. Et après ces 450 ans, eh bien, Dieu a sauvé, a sorti son peuple, qui est devenu un peuple, hein, d'une tribu familiale, c'est devenu un peuple nombreux. Et il a utilisé Moïse pour les sortir d'Égypte. Et c'est là qu'il a constitué un peuple, au mont Sinaï. Vous connaissez cette histoire. Et dans Exode 3, Dieu a voulu, au travers de la constitution du peuple, établir un tabernacle où il peut demeurer avec son peuple. Il voulait être avec eux tous les jours, à chaque instant, avec eux dans ce périple du désert d'abord, ensuite après dans le pays de Canaan. Et pour la première fois, Moïse, bien sûr, qui devait affronter le Pharaon, il connaissait bien, puisqu'il a vécu avec le Pharaon, il savait la puissance de la magie qu'il y a en Égypte, hein, c'était puissance magique les plus importantes à cette époque-là. Ils avaient même tellement peur de perdre leur magie que À la frontière, ils arrêtaient pour voir s'il n'y avait pas des papiers qu'ils emmenaient pour utiliser la magie. Et donc Moïse savait qu'il allait affronter des choses terribles. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand il a confronté Pharaon, il ne s'est pas laissé faire, il a utilisé ses magiciens pour contrer toutes les plaies jusqu'au dernier, bien sûr, où son propre premier-né est mort. Et Moïse, avant d'aller voir le peuple, il a dit à Dieu, il faut absolument que tu me révèles ton nom, parce que jamais on n'a connu le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il existe dans la Genèse, c'est Elohim, hein, c'est d'ailleurs un pluriel. Hein, et on ne connaissait pas vraiment le nom. Et Moïse voulait savoir de quel mandat il venait pour sortir le peuple de l'Égypte. Et Dieu s'est révélé à lui en disant, je suis celui qui suis. Vous, ces lettres imprononçables, c'est un nom imprononçable que les Juifs ne prononcent jamais. Je suis celui qui suis. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Et verset 12 de l'Exode 3, il dit, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Et Dieu voulait que le peuple, une fois qu'il avait un Dieu qui allait demeurer, lui apporte un culte. C'est pourquoi aussi on est là ce matin, et on est là tous les dimanches, pour lui apporter un culte. Il y a une relation entre Dieu et l'homme au travers du culte que nous lui rendons. Et c'est pour ça que ce culte doit être en esprit, en vérité, il doit être authentique. Ce n'est pas juste un culte où on vient, comme dans une religion, eh bien, on fait sa béa, on fait voilà, cette rencontre dominicale, et on part. Non, non, c'est vraiment une rencontre. Dieu veut nous rencontrer. Et celui qui s'appelle Je suis, c'est le Père. Ensuite, quand Jésus est né, Jésus, par la suite, donc, il est issu d'Israël, au travers de la tribu de Juda, au travers de Marie et de Joseph. Eh bien, Dieu s'est révélé par son Fils. Donc, il y a d'abord le Père qui s'est révélé, ensuite son Fils. Et Dieu, dans Matthieu 3, verset 16, il y a cette révélation, le ciel qui s'ouvre, et Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu, c'est toujours Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a le Père, le Fils, qui s'est révélé en Jésus. Et à la Pentecôte, Dieu s'est révélé par son Esprit. Et on a là les trois personnes de la Trinité. Et là, c'est un peuple de toutes les nations. Parce qu'avec Jésus, c'était au peuple d'Israël. Jésus s'adressait à Israël, il s'adressait aux Juifs. Il s'est jamais adressé, enfin, il s'est adressé bien sûr à Corneille, des Samaritains, mais il est venu pour le peuple juif, parce que c'était le Fils de Dieu qui s'est assis sur le trône de David. Mais dans Acte 2, verset 5, c'est toutes les nations qui étaient rassemblées à ce moment-là. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, bientôt on va fêter la Pentecôte. Et là, verset 17, d'acte 2, 17, il est dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc là, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair pour constituer un peuple. Et c'est l'Église. Donc vous voyez, il y a cette progression. Et l'Église, bien sûr, elle aura une fin. Quand Jésus va revenir, ce sera la fin des temps. Dieu veut se manifester aux êtres humains et avoir une relation. Et c'est pour ça, dans le culte, on a besoin d'une relation. Donc on favorise ces relations par la prière, par le chant, par l'expression que vous faites pendant les cultes et que ceux qui lead, comme on a fait ce matin, vous permettent de participer à s'ouvrir à Dieu, à parler à Dieu. Quand Moïse a été visité, donc, quand il était sur la montagne du Sinaï et qu'il y avait cet arbre qui brûlait, incandescent, hein, le buisson ardent, eh bien, il a reçu une vision du tabernacle. Et par la suite, Dieu lui dit, tu feras ce tabernacle exactement dans tous les détails tels que tu l'as vu. Donc il a vu quelque chose qui est dans le ciel, que d'ailleurs Jésus, il est rentré dans cette réalité du tabernacle après sa résurrection. Eh bien ce tabernacle, il fallait qu'il le refasse, qu'il le répète à l'identique sur la terre. Et c'est ça l'origine du tabernacle dans le désert du Sinaï, et ensuite après ça donnait lieu au temple de Salomon. Ce tabernacle, il a tous les détails qui nous importent pour le culte, pour savoir comment un culte doit se dérouler. C'est pour ça que je l'aborde avec vous durant ces deux dimanches. Ce tabernacle, il est constitué de trois lieux et de sept éléments. Dans Romains, chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Raisonnable, c'est-à-dire logique. C'est logique de nous rapprocher de Dieu au travers de ce que Dieu lui montre, de ce que Dieu nous montre, comment on doit s'approcher de lui. On ne peut pas s'approcher de lui, d'ailleurs même quand vous rencontrez quelqu'un de très important, il y a des protocoles, hein, donc même entre les humains. Donc avec Dieu qui est saint, alors que nous sommes pécheurs, il y a des choses à respecter, donc c'est un culte raisonnable, un culte logique. Et il est basé sur le modèle du tabernacle. Donc ce modèle, il comprend trois lieux, et sept éléments symboliques, puisque la réalité se trouve au ciel, sur la terre, ce sont simplement des renvois vers la réalité. Donc, il faut comprendre la réalité. Donc il y a le parvis, qui est un lieu particulier. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et dans ces trois lieux, il y a des éléments symboliques qui renvoient à des réalités spirituelles. Donc le premier, c'est la porte. Il faut rentrer par une porte dans le tabernacle. Il y a les éléments du sacrifice, qu'on doit passer par cela. Il y a la purification, il y a la lumière, il y a le pain de vie, il y a les parfums, et il y a l'alliance. L'alliance avec Dieu, où c'est Dieu qui a prêté serment. Il a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». C'est une promesse qui est signée par le sang de Jésus. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure au moment du repas du Seigneur. Et voilà comment ça se présente, ce tabernacle. Donc vous avez une enceinte hein, qui délimite le parvis. Tout autour, vous avez les 12 tribus qui sont là et qui vivent dans le désert, qui lèvent le camp quand Dieu les fait aller plus loin. Et au centre, donc, vous avez ces sept éléments. Donc c'est la tente d'assignation, la tente de la rencontre, ce qu'on appelle aussi, donc rencontre de Dieu avec les hommes et les hommes avec Dieu. Et donc vous avez en rouge eh bien, les différents éléments que j'ai cités tout à l'heure qui vont jusqu'au tabernacle où Dieu se manifestait, mais pas à n'importe qui, il se manifestait au souverain sacrificateur une fois par an. Et surtout, il se manifestait par une colonne de nuée qui manifestait la présence entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Dimanche dernier, on a abordé la question de la porte. La porte, c'est effectivement l'entrée. Il faut rentrer par une porte dans ce tabernacle. C'est pas ouvert à tout vent. Et ça renvoie aussi à ces deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait un arbre de la connaissance et un arbre de la vie. Et Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, tu mangeras l'arbre de la vie. Donc il y a déjà une obligation de respecter un chemin, de respecter, d'un côté c'est l'arbre de la vie et de l'autre côté c'est la porte du tabernacle. Et c'est là que Dieu fait alliance avec les hommes, c'est là que Dieu nous permet d'entrer dans sa présence. Cette porte, je ne veux pas revenir dessus puisque j'en ai parlé l'autre fois, mais vous savez que Jésus a dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est Jean 10, verset 9. Il faut que tous nous passions, toutes les nations, bien sûr, certains sont choqués en disant « c'est pas juste parce que en fait, même les musulmans, même tout le monde doit passer par la porte. » Ben oui, c'est cette porte-là qui nous amène à Dieu. Et donc, c'est un défi que d'annoncer l'évangile de manière radicale. Le deuxième élément que je vais aborder, c'est l'autel des reins, l'autel des sacrifices, dans le parvis. Donc là, c'était une sorte d'autel assez imposant, une sorte de barbecue, si vous voulez, hein, qui est assez grand, qui était d'ailleurs portable, puisqu'il fallait que tout ça se soit démonté, portable, quand Dieu faisait lever le camp, il devait se déplacer. Et donc, par la suite, c'est la croix qui prend, bien sûr, avec Jésus. Donc, les symboles, c'est d'abord l'autel des sacrifices, où les Israélites amenaient, selon les indications du Lévitique et du Deutéronome, ils apportaient leurs sacrifices pour qu'il y ait ce pardon qui soit accordé au travers des sacrifices. Et aujourd'hui, pour nous, c'est Jésus, puisqu'il s'est donné à la croix, qui remplace symboliquement donc cet autel des sacrifices. Et pour ce qui est de Jésus, eh bien, c'est éternel et c'est perpétuel. Et pour ce qui nous concerne, on commence le culte avec la louange, parce que c'est ce sacrifice de louange que nous apportons au Seigneur. Nous n'apportons pas des animaux, on n'a pas ici un barbecue pour les brûler, c'est Jésus, et c'est pour ça qu'on a mis une croix qui est au fond, qui n'existait pas quand on a acheté le bâtiment. C'est cette croix qui nous rappelle que nous sommes ici grâce à Jésus qui est venu se donner sa vie pour nous. Et donc nous avons toujours les yeux fixés sur Jésus, sur ce sacrifice éternel, et nous apportons les louanges qui lui sont. Donc c'est pour ça que les chants, les paroles sont importants, pour qu'elles aient un sens, que nous apportons au Seigneur eh bien, l'expression de notre reconnaissance, l'expression de notre adoration. Amen. Quelques versets pour illustrer ce passage par cet autel des reins. Dans les psaumes 15, alors c'est la version français courant. Seigneur qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée. C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste, qui pense vraiment ce qu'il dit. C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste. Voilà. Il ne raconte pas du mal des autres. Il ne fait pas de tort à son prochain. Il n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve. Mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent qui agit. Et ainsi ne faiblira jamais. Voyez-vous, il y a des recommandations pour nous, eh bien, de nous comporter comme le Seigneur y veut, selon ses commandements. Et dans Apocalypse, au chapitre 7, verset 13, l'un des anciens me demanda, « Qui sont ces gens vêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils ? » Et je lui répondis, « C'est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Voyez-vous, notre destinée, c'est d'être dans l'adoration, et nous le sommes comme nous sommes ensemble, mais éternellement devant ce que le Seigneur a fait, d'avoir envoyé Jésus pour qu'il soit un sacrifice éternel. Et quand on le reçoit pour nous par la foi, eh bien, nous sommes admis dans sa présence et nous sommes revêtus d'une robe blanche. C'est pour ça, dimanche prochain, les baptisés auront une robe blanche qui signifie qu'ils sont lavés dans le sang de l'agneau, dans l'eau, mais aussi dans le sang de l'agneau. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 12, le roi entra alors pour voir les invités. Il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume ?» Mais l'homme ne répondit rien. Voyez-vous, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec tel que nous sommes. Nous avons besoin de revêtir la robe blanche qui est accordée lorsque le sacrifice de Jésus a passé par là. Donc cet autel est le premier élément que nous rencontrons, enfin qu'on rencontre dans le tabernacle, qui est l'autel de la justice et de la sainteté. Dieu est un Dieu saint, bien sûr, à l'issue de ce parcours, Dieu va se manifester, mais il se manifeste dans la sainteté, dans la puissance de sa justice. Et c'est pour ça, il faut, avant de pouvoir le rencontrer, il faut passer par cette étape. C'est pour ça qu'on appelle ça l'étape de la repentance. Il faut que chacun de nous, comme nous l'avons fait, je l'espère, se repente de ses péchés, mais il faut continuer à se repentir, parce que nous continuons à pécher. Et c'est l'objet, effectivement, de la scène que nous célébrons chaque dimanche quand nous nous rencontrons. Donc l'autel des sacrifices, c'est le premier élément que nous rencontrons. Le deuxième, c'est la cuve de purification. Alors la cuve de purification, c'était une grande cuve de bronze. Ce n'était pas tout à fait comme ça, parce qu'il y avait, c'était beaucoup plus important, où il fallait se laver. Enfin, ceux qui servaient dans le lieu saint, et nous sommes tous des sacrificateurs, comme le dit la parole, nous devons passer par cette cuve également. Et cette cuve, c'est aussi le fait que nous devons continuer à nous garder saints, nous garder propres, comme on l'a lu tout à l'heure, à servir le Seigneur avec un cœur pur. Que nos cœurs puissent vraiment être visités par le Seigneur pour que si nous péchons, nous puissions demander pardon. Que si nous péchons contre un frère ou une sœur, nous puissions nous pardonner aussi. C'est aussi le sens de, lorsque nous prenons la scène ensemble, que nous mettions d'accord avant de prendre la scène, parce que le Seigneur, il veut que nous nous aimions les uns les autres. Donc il y a une purification qui est nécessaire. C'est une démarche de sanctification. Alors, démarche de sanctification dans notre vie, elle prend plusieurs tournures. Moi, j'adhère beaucoup à l'Alliance chrétienne missionnaire qui a le symbole de la cruche de l'onction, qui fait partie aussi de ces quatre symboles, des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, où la sanctification est présente. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. On peut dire on est chrétien et on ne respecte pas la parole de Dieu, on ne respecte pas les exigences de cette parole. Et donc la sanctification est quelque chose d'important, on verra tout à l'heure dans le clip que j'avais fait il y a quelques années. Tout d'abord, il faut passer par le baptême. Cette cuve aussi représente le baptême, l'eau, qui va être ici présente dimanche prochain, c'est le baptême au nom de Jésus, comme un bain de purification. Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit qu'il nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Il nous a sauvés et a fait naître à une vie nouvelle au travers de l'eau du baptême et par le Saint-Esprit. Le baptême est important. On le rappellera dimanche prochain que c'est pas un rite, c'est une démarche personnelle. Et bien sûr, le symbole de plonger dans l'eau, c'est précédé par un témoignage un témoignage de vie transformée, de vie changée, de rencontre avec le Seigneur. Dans Jean 3, Jésus dit, celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, mais pas tous cependant. C'est donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Il y a certaines églises qui font le lavement des pieds, l'église catholique le fait, d'autres églises aussi. Laver les pieds, c'est effectivement un symbole. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est un symbole d'humilité envers les frères et sœurs. Et c'est important, même si on ne fait pas le geste du lavement des pieds, c'est que nous pratiquions cette humilité entre nous, pour voir les autres supérieurs à nous-mêmes, parce que nous ne sommes rien. Jésus est supérieur à nous, mais pas nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Et donc cette attitude d'amour, cette attitude d'accepter les défauts les uns des autres et de nous respecter, de nous voilà, c'est l'équivalent du lavement des pieds, c'est cette cuve dont nous parlons avant d'aller plus loin. Il faut que nous pratiquions cela dans nos vies. Donc cette cuve des reins, ça renvoie à une source de purification, une ressource purifiante et sanctifiante. Et la sanctification est quelque chose d'important. On voit que souvent dans les milieux un peu pentecôtistes ou charismatiques, on saute cette étape-là pour aller sur les dons. Les dons, c'est important. Ça permet de servir le Seigneur. Mais la sanctification, c'est ce qui nous fait vraiment chrétiens aux yeux des autres. Et quand vous voyez dans les actes, eh bien, les gens reconnaissaient les chrétiens à l'amour qu'ils avaient les uns des autres. Pas au don de puissance. Vous savez, ma femme, elle a connu la fin du réveil de Pentecôte. Eh bien, ce n'est pas les miracles qui sont importants, c'est l'amour. L'amour avec lequel vous ressentez que se manifeste la présence de Dieu. Les miracles, c'est bien sûr en plus, mais c'est pas parce que voilà, l'ennemi peut aussi faire des miracles, mais il ne peut pas faire l'amour. Mais l'amour plus les miracles, bien sûr, c'est le mieux. Après cette cuve-là, il y a le lieu saint. Donc là, on est dans le parvis. On a vu les trois éléments, la porte, l'autel des sacrifices, et puis la cuve. Et ensuite, après, il y a le lieu saint. Donc, il faut re-rentrer par une porte. Et donc, c'est la porte du lieu saint. Et cette porte, je n'ai pas le temps de décrire, vous pouvez le lire vous-même dans la parole de Dieu, qu'il a les mêmes couleurs, il y a quatre portes, quatre éléments qui soutiennent la porte, de la même façon que l'entrée dans le parvis, l'entrée dans le tabernacle. Et toutes ces couleurs ont une référence à une réalité spirituelle. Et donc il faut rentrer à nouveau par cette porte pour aller plus loin, donc après avoir respecté la sanctification. Et là, on rencontre dans ce lieu saint trois choses. Tout d'abord, le chandelier à sept branches. Je crois qu'il est là. Ah non, par contre, celui-là, c'est un neuf branches. Mais le chandelier à sept branches, c'est celui qui est là. La particularité, c'est que ce chandelier est en or complet d'une seule pièce d'or. C'est-à-dire, c'est pas des pièces qui ont été rajoutées ou soudées. Non, c'est une seule pièce. Il fallait vraiment être un artiste, un orfèvre expérimenté pour sortir l'ensemble de ces sept éléments de cette menorah qui, d'ailleurs, au passage, il y avait l'huile d'olive qui rejoignait l'ensemble de ces récipients pour qu'ils puissent être allumés, parce que c'était une huile particulière qui était utilisée pour que nuit et jour, eh bien, ce feu, cette lumière éclaire le lieu saint. Le lieu saint était éclairé par ce chandelier. Et ce chandelier représente aussi l'Église aujourd'hui. Ce sont les sept esprits de Dieu, Vous le retrouvez dans l'Apocalypse. C'est les sept esprits de Dieu, c'est les sept églises, etc. Il y a beaucoup de symbolisme autour de ce chandelier. Le chandelier, aujourd'hui, il est utilisé en Israël pour identifier le peuple d'Israël. Ce n'est pas le drapeau, c'est vraiment le chandelier qui est sur les sceaux officiels d'Israël, parce que ça représente aussi la parole, ça représente c'est une représentation très, 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 très importante pour le peuple d'Israël et pour nous aussi. Donc ce chandelier représente la présence de Dieu. La présence de Dieu dans cet endroit, dans ce lieu saint, et au milieu du peuple qui éclaire le monde. Donc nous devons éclairer le monde parce que nous sommes l'Église. Si nous n'éclairons pas le monde, eh bien nous ne sommes pas utiles à quoi que ce soit pour le Seigneur. Et l'Église est la lumière du monde. Et nous devons marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Donc là, on n'est plus sur un symbolisme du chandelier, c'est la parole. Il faut que nous appliquions la parole à chaque moment de notre vie. Si nous ne le faisons pas, nous demandons pardon, mais nous devons avoir la conscience pure que nous avons péché, à un moment donné, de ne pas avoir appliqué la parole. Donc ce chandelier est au centre du lieu saint, la première chose qu'on va rencontrer. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez-vous, la lumière, au centre de nos rencontres, au centre de notre communauté, au centre de ce que nous sommes, eh bien, est absolument capitale pour être ce sel et cette lumière dans le monde. Dans Éphésiens, il y a aussi ce passage qui dit que vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture, de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Voyez-vous, il y a cette notion d'effort qui est dans ce texte d'Éphésiens. C'est une participation que nous devons avoir en tant que chrétiens pour tout faire pour être conforme à cette lumière que nous sommes, que nous représentons, parce que Dieu a fait de nous une lumière. Mais cette lumière a tendance à... Et on le voit en tant que chrétien, plus ça va, plus on a tendance à se confondre avec le monde, et puis la lumière baisse. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a besoin de réveil. Les réveils, ils amènent à nouveau la lumière récemment. Les États-Unis ont été beaucoup bénis par toutes sortes de réveils dans le passé, au 19e, entre autres, en particulier, parce que chaque génération, elle perd la lumière, elle perd le degré d'intensité. Quelqu'un qui rencontre le Seigneur pour la première fois, je me rappelle que c'était mon cas, il y a une lumière incroyable quoi, hein, qui se dégage, qui vous brûle comme le soleil. Hein. Et il faut entretenir cette lumière, mais ça c'est tout un travail qu'il faut faire sur soi pour nous rapprocher du Seigneur tous les jours, tous les jours. Voilà, donc sans vision, c'est aussi... cette chandelier renvoie aussi à la vision. Et on sait que dans une église, ou dans une communauté, ou dans un groupe, s'il n'y a pas de vision, eh bien le peuple périt. Parce qu'en fait, la vision entretient aussi notre marche avec le Seigneur ensemble. Parce qu'il y a une chose de marcher ensemble, en tant que chrétien, individuellement et une chose de marcher ensemble, en communauté. Là, nous sommes totalement différents, de nations différentes, de races différentes, d'origines différentes, de cultures différentes. Et qu'est-ce qui nous rassemble ? Mais la vision. C'est quoi la vision ? Il faut avoir une vision. Il faut, savoir ce pourquoi Dieu nous appelle ici, dans cette communauté, ici, à Aubergenville. Et s'il n'y a pas cette vision-là, mais il y a un éclatement, parce que chacun va vivre sa vision. Et Dieu a une vision communautaire pour un corps, parce que nous sommes un corps. Donc l'Église a besoin d'une vision. Et nous, nous avons une vision bon, qui est explicite, hein, qu'on verra pour ceux qui deviennent membres, hein, pour qu'ils puissent la connaître, qui est l'ABC. Vous savez, quand on apprend à l'école primaire, on a l'ABC, on commence par le plus simple. Donc on a cette vision ABC qui peut vous expliquer en quoi notre vision dépend. Et en particulier, on est appelé pour des familles, ici dans cette église, on est appelé pour aider chacun pour entrer dans sa personnalité réelle, donc être libéré dans sa personnalité. On a un outil pour ça, qui est la maison des lits, etc. On a toutes sortes de choses que Dieu nous a équipées pour que chacun puisse rentrer dans sa destinée, mais surtout aussi que l'Église puisse rentrer dans sa destinée, qui est justement le phare. La vision commune, c'est le phare. Et c'est aussi cette représentation du logo qui, d'un seul coup, peut vous donner l'idée. Ceux qui ne savent pas ce que représente le logo, bien sûr, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, ça évite de faire 10 pages d'explication. Une fois qu'on sait ce que représente ce logo, eh bien, on a tout de suite l'idée de la vision. Et il y a, en 2015, j'ai fait aussi un clip vidéo. On n'a peut-être pas le temps de le passer. Est-ce que le son il va marcher ? Une vision sous forme de parabole. C'est une parabole, c'est une petite histoire que j'ai fait faire par Dan Wong avec des petites pâtes à modeler, etc., qui nous a fait pour cette église, pour expliquer quelle est notre vision du chrétien et la vision de la manière dont on envisage que le chrétien puisse avancer avec le Seigneur. Donc notre vision ABC est racontée par un petit pèlerin qui accueille le plan de Dieu. Il faut accueillir le plan de Dieu. Il faut bénéficier de la sagesse, parce que très souvent, nous trébuchons parce que nous manquons de sagesse. Et l'apôtre Jacques, justement, il insiste beaucoup pour demander la sagesse. Si vous ne l'avez pas, demandez-la, la sagesse. Et l'ennemi, qui est le serpent, il utilise la sagesse pour nous mettre sur des faux chemins. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont sur des faux chemins parce qu'ils manquent de sagesse. Et il faut centrer sa vie sur la croix et sur Christ, c'est le C. Donc accueillir, bénéficier la sagesse et centrer sa vie sur la croix. Et donc là, il y a la petite vidéo qui a été faite spécialement pour expliquer ça. Ah. Ça n'a pas marché. Ah oui, c'est là. Il y a deux personnes. Il faut d'abord accueillir la main de Dieu. C'est pas obligatoire, c'est pas automatique. Et là, il emprunte le chemin du chrétien. Et là, il faut bénéficier de la sagesse. Parce qu'il y a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Voyez-vous, quand le chrétien il avance, il veut servir Dieu, mais il est pris. Il est pris par des liens. Voyez, ce sont tous ces liens qui souvent nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Des liens d'âme, des liens de culture, des liens mentaux, des liens de malédiction, toutes sortes de liens, vous voyez. Et pendant 2 ans, on a travaillé sur la maison d'Élie, justement, pour briser ces liens-là, de manière à ce qu'on puisse vraiment entrer pleinement dans toute la capacité de ce que Dieu a fait nous, c'est ce que représentent ces liens. Ah. Je ne maîtrise pas, j'aurais pas dû l'arrêter, mais ouais, peut-être par là. Il y a des noms sur les liens. Les peurs, les angoisses, tout ce qu'on a vécu dans le passé, etc. Quand on est libéré, après, il y a des personnes qui ne peuvent même pas lever les mains pour louer le Seigneur. Vous voyez, parfois, ils sont pris dans des liens. Il y a des liens cognitifs aussi, des anciennes religions dans lesquelles on était, qu'on mélange avec le christianisme. Donc, il faut aller à la croix. Alors, il faut centrer sa vie. Il faut centrer sa vie sur Christ. Mais il y a des phases, comme le dit l'apôtre Pierre. Il y a la phase de l'enfance. Et j'ai utilisé la danse pour montrer que pour danser, il faut être à deux. Le Seigneur et nous. Nous et le Seigneur. Donc, il faut accepter de faire cette danse. Et ça rejoint C.S. Lewis, hein, qui a utilisé ces images de danse dans Narnia, etc., enfin, puis dans ces autres livres. Et donc, il y a d'abord l'enfance, on passe par l'enfance, l'adolescence et la phase adulte. Et souvent, il y a des chrétiens qui restent sur la phase de l'enfance. Donc, ils ne peuvent pas rentrer pleinement dans leur vocation. Je ne sais pas si ça va repartir. Là, c'est l'enfance. Ils découvrent la parole. La parole est très riche, hein, donc il y a tout un tas de choses à faire. Et après, il faut rentrer dans l'adolescence. Il dit, j'y arrive pas. Mais il faut prendre par la foi en disant, merci Jésus, je vais y arriver. Et s'engager dans les ministères, s'engager dans les équipes, s'engager dans la qualification. C'est pour ça que l'Église est là, pour vous permettre de vous engager pour servir, c'est en servant qu'on commence à être dans l'adolescence de la foi. Il faut aussi dégager des choses, hein, des choses superflues qui nous encombrent, parce que si on reste avec des lectures, avec des habitudes, on peut pas avancer avec le Seigneur. Il y a aussi des notions d'Église où, voilà, on pense que le pasteur c'est le chef, non, c'est le berger. Donc il y a tout un tas de notions à revoir pour entrer dans l'âge adulte. L'âge adulte, c'est l'âge des priorités. On prend des priorités. On décide. On ne se laisse pas pousser par les impulsions. On décide d'aller à la réunion de prière. On décide d'aller au culte. On décide. C'est l'âge des responsabilités. On décide d'aller évangéliser, on décide de... Vous voyez, c'est un effort, hein. Efforcez-vous. Et le soir, Jésus tape sur l'épaule, disant, bon et fidèle serviteur, hein, c'est bien. Et là, on rentre dans la maturité. Hein. Et cette maturité, c'est le sens de la vision que nous portons ici. Alors, ce petit clip, ensuite, après... Bon, Dan Wang.
Qui se sépare, est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de...
Voilà. Donc après, Danemang me demande d'expliquer ce que je vous ai fait un peu rapidement là, en live. Mais cette petite vidéo se trouve sur le site. Vous pouvez cliquer et la voir dans son ensemble. Elle est un peu vieille parce qu'il y a encore Henri Valin qui est responsable de jeunes et tout ça. Et Samuel et Cathy qui sont dessus. On n'a pas encore pu la reprendre. Mais elle vous donne vraiment la vision de notre Église, que nous voulons amener les chrétiens à maturité. Et ça passe par une réciprocité aussi dans ces échanges entre nous pour que nous puissions grandir et aller vers la stature parfaite de Christ. Je vais rapidement aux derniers éléments, c'est la table des pains de proposition. Donc cette table qui se trouve à droite quand on rentre dans le lieu saint, c'est l'équivalent de la Sainte Cène aujourd'hui, qui est la vie de communion avec Dieu et avec les frères. C'est la question du pain que nous partageons, qui est quelque chose d'humain entre nous et qui représente cette table du partage du pain. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu, donc on va le lire tout à l'heure, concernant la scène. Et le fils qui lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Vous voyez, c'est la notion du repas. Nous savons qu'il y a un festin aussi à la fin des temps, où nous allons festoyer avec le Seigneur. Et c'est une joie parce qu'il dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, j'étais perdu, je l'ai retrouvé, et ils commencèrent la fête. Le Seigneur veut faire la fête avec nous. Bon, l'Église ne peut pas être un lieu de tristesse, un lieu de joie, de partage et d'échange. Voilà donc cette table des pains. Ensuite, l'autel des parfums. L'autel des parfums, il est au fond. Il est complètement en or, cet autel. Et sur cet autel, il y a des braises que les sacrificateurs viennent chercher sur le premier autel d'airain. Ils les mettent là et ils mettent des parfums dessus. Ils mettent des huiles odorantes, etc., pour que le parfum il soit tout le temps dans ce lieu saint. Il y a un parfum de bonne odeur. Et ce parfum, eh bien, c'est quelque chose qui nous renvoie à la vie de l'adoration, à la vie d'adorateur, à la vie de la louange, de la prière. Et c'est ce que nous voulons faire dans cette chapelle de prière qui est en bas, qui sera dédié que à cela, l'adoration, la prière, la louange, le recueillement, la rencontre avec Dieu, où effectivement il n'y aura pas d'autre activité que ça dedans, parce qu'il y a aussi la manifestation des anges à ce moment-là. Hein. Nous attendons vraiment une manifestation angélique dans ce lieu de parfum. Regardez dans Apocalypse 8, verset 3, un autre ange vint et se tint debout sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Voyez-vous, ça représente toutes les prières. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit, quand on est venu ici, il faudra construire une maison de prière pour toutes les nations. Et sur cet autel d'or, eh bien, c'est l'autel de la perfection, de la pureté du Seigneur, où fait monter la prière des saints. De la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Ça, c'est la fin des temps. Mais vous voyez, c'est un endroit où, quand on a passé toutes ces étapes, on peut vraiment être en contact avec la gloire du Seigneur. Que la prière monte tout droit vers toi, comme la fumée et l'encens. Et ma demande comme l'offrande du soir dans le psaume 141. Et dans Jean, mais le moment vint, et il m'est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son Saint-Esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en étant guidés par l'Esprit selon sa vérité. C'est ce que nous voulons dans cette Église. Nous voulons que le Seigneur soit adoré en esprit et en vérité, et que nous puissions voir sa gloire se manifester. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant réservé à Dieu, qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Vous voyez, le vrai culte, c'est de manifester eh bien, à Dieu le sacrifice de tout notre être. Et le sacrifice, ça veut dire qu'il faut sacrifier, il faut prendre des décisions. Comme tout à l'heure, la maturité, c'est un chrétien qui prend des priorités, qui dit « je ne fais pas ça, je fais ça ». Et à la fin, il peut modifier ses priorités, mais il est guidé par des décisions et pas guidé par des impulsions émotionnel où il fait ce qu'il a envie de faire à un moment donné. Sinon, on n'est pas dans la maturité. Dernier élément, c'est l'arche, bien sûr, l'arche d'alliance. Là, c'est le lieu très saint où, en Israël, il n'y avait qu'un seul qui pouvait y aller. C'est le souverain sacrificateur. Et s'il n'était pas dans les dispositions qui étaient prévues par la parole de Dieu, eh bien, il mourait. Et il mourait, et on ne pouvait même pas aller le chercher. Il fallait le tirer avec une corde qui lui était attachée au pied systématiquement pour être sûr, parce que tous ceux qui rentraient étaient frappés de mort. Vous voyez, c'est le lieu très saint. C'est là où le Seigneur se manifeste. Est-ce que vous voulez que le Seigneur se manifeste? Eh bien, mes chers frères et sœurs, le Seigneur va se manifester. Si nous suivons sa parole, si nous respectons sa volonté, si nous suivons ce tabernacle qui maintenant est un tabernacle qui est dans le ciel. Jésus, il siège dans ce tabernacle, il est dans ce tabernacle, entouré des anges, etc. Et nous pouvons entrer dans sa présence au travers de lui. Vous voyez, c'est le souverain sacrificateur, mais nous pouvons rentrer lorsque nous sommes dans une attitude de prière, d'adoration. Nous sommes des sentinelles qui pouvons servir le Seigneur. Et là, il y a Ésaïe 6, verset 1, qui parle de ce temps où l'un des anges, je termine à la fin de ce verset, l'un des anges flamboyant volant vers moi, avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel, il en toucha ma bouche et me dit, cela a touché tes lèvres, ton indignité est supprimée, ton péché est effacé. Et j'entendis dire le Seigneur, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Moi, répondis-je, tu peux m'envoyer. Est-ce que nous sommes prêts à ce que le Seigneur nous envoie dans le monde? Et c'est lui qui va nous équiper, c'est lui qui va mettre cette incandescence dans notre bouche pour la purifier, de manière à ce que nos paroles puissent sortir des paroles magnifiques. À la Pentecôte, les apôtres y parlaient en langue, dans les langues que les gens entendaient. Et c'est un miracle, parce que Dieu mettait dans leur bouche eh bien, des paroles extraordinaires qui magnifiaient le nom de Jésus. C'est ce qu'il veut faire aussi avec nous. Et toujours dans Ésaïe 55, « À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas ? À quoi bon ? Vous donnez du mal pour rester sur votre faim. Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. » Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur, il est le même. C'est nous qui changeons. C'est nous qui sommes tièdes et non pas. Si nous sommes bouillants pour le Seigneur, si nous recevons cette incandescence de la pureté du Seigneur, eh bien, nous serons transformés également. Il parlait encore dans Matthieu, lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir, et du nuage une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui je mets toute mon attention, ma joie, écoutez-le. Et on voit que Jésus, il était apparu aux disciples. Et le Seigneur peut aussi faire des choses extraordinaires ici par sa puissance. Amen. Alors, que ce tabernacle, vous pouvez tous l'étudier aussi dans la parole et dans les Hébreux. Le livre des Hébreux, eh bien, il détaille vraiment tout le symbolisme de ce tabernacle. C'est ce que nous voulons vivre dans le culte. Dans le culte, à chaque culte que nous vivons, nous pouvons le vivre. Et à la fin, nous terminons avant la bénédiction par le repas que nous allons faire en ce moment, qui est un peu le résumé de ce que le Seigneur veut. Dans ce repas, le Seigneur nous demande de nous ressaisir, de nous poser des questions. Est-ce que, Seigneur, vous voyez, comme ce chrétien qui est mature, qui regarde les priorités, c'est l'occasion de faire le point. Seigneur, là, j'ai failli. Et de semaine en semaine, nous pouvons faire des progrès. Vous voyez, de semaine en semaine, nous pouvons grandir. De semaine en semaine, nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester, parce qu'il est avec ceux qui le cherchent, amen, et ceux qui le suivent et ceux qui se mettent en règle avec lui, amen. Seigneur, nous te prions pour que ce parcours du tabernacle puisse être une réalité vivante pour nous aujourd'hui, dans cette église, Seigneur. Que, Seigneur, la vision que tu nous donnes, que tu nous as donnée, qui s'inscrit, Seigneur, dans cette nuée de témoins qui nous a précédés et que nous voulons suivre, eh bien, nous puissions être cette lumière dans cette région, cette lumière dans notre famille, cette lumière, Seigneur, dans nos vies de chaque jour, Seigneur, au travail, partout, Seigneur. Nous voulons être ce chandelier, Seigneur, où toi, tu es au centre. Et, Seigneur, nous voulons vivre pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre en règle, Seigneur, à chaque fois que nous avons péché, que nous puissions te demander pardon et que nous puissions, Seigneur, rectifier le tir, que nous puissions reprendre les choses, Seigneur, pour aller plus loin, pour te servir. Nous te demandons ton aide et ta grâce afin que cette Église, Seigneur, puisse être un phare qui éclaire dans cette région. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.